Accent d'Europe, Catherine Roland.
Et voilà, sous le son de l'accordéon, nous sommes à deux jours des législatives autrichiennes anticipées. Le jeune candidat conservateur Sébastien Kurz est donné largement favori. Quant aux Verts, ils ne sont crédités que de 4 ou 6% des voix. Pourtant, l'an dernier, les Autrichiens ont élu l'écologiste Alexander Van der Bellen à la présidence. Les Verts n'ont pas su capitaliser cette victoire à cause de divisions internes. Céline Béal a accompagné sur le terrain la candidate verte Ulrike Lunacek à Vienne.
Les week-ends d'automne, quand il fait beau, les Viennois aiment aller se promener sur les collines qui entourent leur ville. Là, assis entre deux pieds de vigne, on peut profiter de la vue sur la capitale tout en sirotant un bon vin. Des musiciens sont aussi présents pour les occasions spéciales, comme aujourd'hui pour la journée de la randonnée dans les vignes. Et ce jour-là, on croise aussi la tête de liste des Verts, Ulrike Lunacek, venue faire campagne à la campagne. Souriante, elle serre quelques mains et commande un verre, mais ses contacts avec les randonneurs restent un peu superficiels. Il faut dire qu'ici, rares sont ceux acquis à sa cause.
Ce n'est pas à cause de Madame Lunacek, c'est à cause des Verts viennois que je trouve un peu suspect, parce qu'ils veulent détruire un patrimoine mondial de la culture et ça me pose un problème.
Ce quinquagénaire fait allusion à des plans de modernisation d'un immeuble qui pourrait remettre en question le classement du centre-ville viennois à l'UNESCO. Dans la capitale, le parti Die Grünen gouverne avec les sociaux-démocrates, mais ne parvient pas à se défaire de son image de lobby pour Bobo. Autre grief, les querelles internes au parti, avec la sécession de l'ensemble de l'organisation de jeunesse Les Jeunes Verts, suivie de celle du député star Peter Pilz, qui a lancé une liste en son propre nom et siphonne les électeurs écologistes. Sans compter la démission surprise de l'ancienne chef du parti, 5 mois seulement avant les élections. C'est Ulrike Lunacek qui a pris la relève au pied levé, elle qui était jusqu'ici surtout connue à Bruxelles en tant que vice-présidente du Parlement européen.
Ça n'a pas été très facile, je l'avoue, ça ne sert à rien d'enjoliver les choses. Mais les sondages s'améliorent et je rencontre beaucoup de gens qui nous disent à quel point c'est important pour le combat contre le changement climatique, mais aussi pour la justice sociale et la question européenne, et que les Verts soient forts dans le prochain Parlement.
L'embellie dans les sondages se fait en réalité encore attendre. À moins d'un miracle, les Verts devraient rester dans l'opposition. En Autriche, selon leurs résultats aux législatives, les partis doivent s'accorder pour former une coalition qui choisira le chancelier et le gouvernement. Les Verts n'y ont encore jamais participé. Simon, 21 ans, étudiant, équipé d'un sac à dos aux couleurs de son parti, est venu aujourd'hui soutenir Ulrike Lunacek. Même s'il croit qu'elle peut faire un bon score, il doute d'apprécier la prochaine coalition gouvernementale.
En ce moment, les perspectives ne sont pas vraiment réjouissantes. Bon, je ne sais pas vraiment quelle coalition on aura, mais j'espère malgré tout que ce ne sera pas une coalition conservatrice de droite, voire d'extrême droite.
En tête des enquêtes d'opinion depuis des mois, le jeune espoir des conservateurs, Sébastien Kurz, ne cache pas en effet qu'il envisage de collaborer avec le parti d'extrême droite FPE, qui pourrait bien arriver en deuxième place, au coude à coude avec les sociaux-démocrates. Ces derniers, eux-mêmes, n'excluent plus une coalition avec le FPE, de sorte que les Verts sont le dernier parti du Parlement à refuser de franchir la ligne rouge. Une singularité dont sont conscients ses électeurs, comme Bartholomeus.
Oui, c'est en fait le seul parti pour lequel on peut voter si on veut empêcher un basculement très à droite, je dirais.
Bartholomeus votera donc pour Die Grünen, faute d'alternative. Les écologistes occupent en effet la gauche de la gauche en Autriche, seul avec le petit parti communiste qui, lui, n'est pas représenté actuellement dans l'hémicycle. Ce jeune père de famille n'est cependant pas vraiment enchanté par ce choix, car selon lui, la formation d'Ulrike Lunacek fait campagne sur des thèmes qui n'intéressent qu'une minorité d'Autrichiens.
Ils devraient absolument jouer la carte sociale bien plus qu'ils ne le font et ne pas se focaliser uniquement sur les questions européennes et d'immigration. En faisant ça, ils risquent de tomber dans le piège que leur tendent Sébastien Kurz et l'extrême droite.
Die Grünen souffre en effet dans la population de son image laxiste envers l'immigration, un des thèmes principaux de cette campagne. Alors que les autres candidats prônent un renforcement des frontières, soit européenne, soit nationale, qui permettrait à la petite République alpine de protéger ses acquis sociaux, voire sa culture, les Verts prêchent pour la solidarité européenne en la matière. Une différence de vue qui risque fort cette fois-ci de ne pas faire la différence dans les urnes dimanche prochain.
Ils sont plus de 25 000 à Bruxelles, la capitale belge, la deuxième capitale mondiale des lobbyistes après Washington. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces lobbies ne sont pas en odeur de sainteté en ce moment. Ainsi, les groupes de pression du géant américain Monsanto ne sont plus les bienvenus au Parlement européen, car l'agrochimiste américain a refusé de répondre aux questions des eurodéputés sur ce fameux pesticide, le glyphosate. Coïncidence ou non, une ONG, l'Observatoire de l'Europe des entreprises, vient de rééditer son guide, le Lobby Planet. Il permet de se balader à Bruxelles et de découvrir où se trouvent ces groupes de pression, combien ils dépensent et dans quel secteur. Des visites guidées sont aussi organisées. Lakshmi Lota.
So imagine we are Philip Morris. How would you lobby if you were Philip Morris?
Nous sommes sur le rond-point Schuman, au cœur des institutions européennes. Laura Verheek, chercheuse à l'Observatoire de l'Europe des entreprises, raconte l'histoire du lobbying à des étudiants.
Alors un lobbyiste, c'est quelqu'un qui essaye d'influencer une loi pour des intérêts. Ces intérêts peuvent être privés, ceux d'entreprises, ou publics, pour des régions par exemple. Ou alors ce qu'on appelle aussi le plaidoyer, ce sont des lobbyistes qui sont là pour l'intérêt général.
C'est le lobby tour, organisé plusieurs fois par an pour le grand public qui découvre le monde de l'influence.
Je trouve ça intéressant parce que c'est souvent un monde qu'on ne connaît pas, où on le connaît en surface mais on ne connaît pas trop ce qui se passe. Donc honnêtement je ne connais pas grand chose par rapport au lobby, etc. Je sais qu'ils ont une influence importante et qu'ils peuvent retarder des décisions ou les accélérer ou les... ou les annuler, ou les... Enfin, je sais qu'ils peuvent faire beaucoup de choses.
Je ne suis pas contre envisager un travail dans les lobbies. Donc voilà, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus.
Laura Verheek se place devant les bâtiments où se trouvent les bureaux de Monsanto, Philip Morris ou encore Microsoft et livre des données ou des anecdotes sur les pratiques des lobbyistes. Anecdotes que l'on retrouve dans le Lobby Planet, un guide des lobbies à Bruxelles. Laura Verheek.
Vous allez voir, il y a des cartes dans le guide. Donc pour le moment, il est uniquement disponible en anglais, mais on va le sortir en français fin octobre. Donc vous pouvez vous-même faire un tour des lobbies. On va aussi tenter d'avoir des podcasts qui permettraient que ça rende les choses plus interactives.
Mais là, on découvre vraiment qu'il y a une réelle proximité physique entre les bâtiments, entre, enfin, c'est une découverte d'un monde un peu petit, un peu qui peut paraître un peu fermé. Enfin, c'est vraiment concentré sur des petites zones.
Tennessee est étudiant français en relations internationales.
Il y a ce côté un peu sombre des lobbies où on a l'impression que c'est un monde de représentation d'intérêts, oui, mais où il y a énormément d'argent en jeu et où parfois l'argent domine un peu trop les enjeux. Mais d'un autre côté, les lobbies sont quand même essentiels dans la création d'un débat. Un parlementaire européen aura du mal à trouver réellement des informations ou sur des sujets extrêmement techniques sur lesquels il doit plancher parfois. Enfin, ça permet d'avoir... entre guillemets, une expertise qui permet de faire un choix, de construire une idée.
Mais qui sont ces 25 000 lobbyistes qui influencent les décideurs à Bruxelles? Laura Verheek.
C'est un monde à part parce que déjà, c'est souvent ce qu'on appelle une bulle. Donc ça va être des personnes qui ont souvent la même formation, qui sont passées principalement par le Collège d'Europe. C'est un monde aussi d'experts, donc de personnes qui sont restées très longtemps à Bruxelles. En fait, ce que vend un lobbyiste, c'est pas uniquement de l'influence, mais c'est aussi de l'expertise. On a de nombreux lobbyistes qui sont spécialistes d'un sujet. Ils sont tellement spécialistes qu'ils deviennent plus spécialistes que les décideurs eux-mêmes. C'est ça qui fait leur force aussi. Donc on est dans des gens qui se connaissent très bien, qui connaissent très bien leur sujet, qui connaissent très bien comment fonctionne Bruxelles. Et ensuite, c'est vrai qu'on a souvent dans des personnes qui vont habiter dans un certain quartier à Bruxelles et encore une fois, qui vont sortir dans les mêmes restaurants, avoir fait la même formation, avoir des enfants qui vont dans la même école, donc c'est aussi il y a aussi cette reproduction sociale aussi, et puis il y a énormément de lobbying qui a lieu de façon informelle, au golf le dimanche matin, à la boulangerie le samedi midi, des choses qui se font au-delà des couloirs des institutions bien entendu.
Le lobbyiste Pascal Kerneis, directeur du Forum européen des services, a débuté sa carrière comme expert juridique à la Commission européenne. Se reconnaît-il dans ce portrait ?
Je pense que c'est un fantasme de croire que on est des gens différents. Je veux dire, ça existe exactement la même chose à Paris pour les gens qui s'occupent de faire passer des messages auprès de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Dans tous les pays du monde, ça existe. Non, je veux dire, on est des gens comme les autres. On mange dans le restaurant le plus proche du bureau et puis voilà. On va envoyer nos enfants à l'école et puis on va au travail et nos réunions effectivement se passent à la Commission européenne, au Parlement européen, au centre de convention du Borchette et des choses comme ça. Mais de là à dire qu'on est plus riche que les autres et qu'on est dans des endroits particuliers. Non, on va dans les restaurants, c'est ouvert à tout le monde.
Dans le guide, l'Observatoire de l'Europe des entreprises explique comment le lobby du tabac a retardé des lois en faveur de la santé publique. Aujourd'hui, c'est celui des pesticides qui fait parler de lui. Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie, demande une commission d'enquête car l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, l'EFSA, aurait repris intégralement des éléments fournis par le géant américain Monsanto pour écrire son rapport sur le glyphosate. L'agence a conclu que l'herbicide n'était pas cancérigène. Michel Rivasi.
Une commission d'enquête parce que il faut quand même maintenant bien regarder pourquoi ça dysfonctionne. Comment il y a des failles dans le système qui font que les lobbies rentrent directement dans les commissions? C'est pas normal.
Première historique, la semaine dernière, les eurodéputés ont décidé d'interdire l'entrée de l'institution aux lobbyistes de Monsanto, car l'entreprise a refusé de participer à une audition publique au Parlement. L'information figurera certainement dans le prochain Lobby Planète.
Et quand on parle de géants, cette fois c'est Google qui est de nouveau critiqué en Irlande du Nord. Rien à voir avec les impôts ou avec sa position dominante sur Internet. Google est en fait accusé de pratiquer un commerce malsain car on trouve dans sa section shopping des t-shirts qui glorifient l'IRA, le groupe paramilitaire nationaliste qui a fait des centaines de morts pendant le conflit nord-irlandais. Et les familles de victimes de ces attaques se disent écœurées. Julien Lagache.
La boutique Google propose différents articles. Un t-shirt de couleur unie avec simplement écrit « IRA debout ». Un autre où l'on voit une série d'armes rangées par ordre chronologique et le slogan « 800 ans de résistance irlandaise ». D'autres modèles sont clairement plus ironiques, tels celui qui arbore une photo avec des hommes en armes cagoulés déambulant dans des rues et légendés « Sniper au travail » ou encore celui qui détourne une affiche de propagande britannique de la Seconde Guerre mondiale surmontée d'une couronne qui disait « Restez calme et continuer » et qui sur ce t-shirt devient « Restez calme et laissez l'IRA s'en charger ». Un commerce jugé détestable, voire morbide par ceux qui ont été touchés par les attentats du groupe terroriste irlandais. Ils ont donc réclamé que le géant américain retire ses articles comme il avait dû le faire pour des t-shirts du Hezbollah libanais ou des tigres tamouls du Sri Lanka. Sauf que ces organisations apparaissent sur la liste noire des États-Unis alors que l'IRA n'y est pas, sous-entendu l'IRA n'est pas une organisation terroriste. C'est en tout cas ce qui a fait bondir les familles de victimes. Colin Parry, dont le fils de 12 ans a été tué dans un attentat de l'IRA en 1993, se dit écœuré de voir que tant qu'il y a de l'argent à gagner, Google fera tout pour vendre des choses. Un ancien ministre conservateur britannique a lui rétorqué « Peut-être que Google a besoin qu'on lui explique. Il devrait discuter avec la veuve du député Ian Gow, assassiné devant chez lui en juillet 90. » Des réactions forcément émotionnelles auxquelles Google a répondu en s'abritant derrière des arguments légaux, mais cela a entraîné un nouveau débat sur la nature de l'IRA et des groupes paramilitaires dont certains seraient toujours actifs en Irlande du Nord, et ce, 20 ans après la signature des accords de paix.
Avec ses faux airs de Golden Gate, le pont du 25 avril qui enjambe le Tage est l'un des emblèmes de Lisbonne. Désormais, l'édifice se visite de l'intérieur ou presque. Une offre touristique pour un nouveau point de vue sur la capitale portugaise. Marilyn Darcy.
Le grand séisme de 1755 qui avait détruit Lisbonne est encore vivace dans la mémoire collective des habitants. C'est, dit-on, l'une des raisons qui empêche la ville de se doter de gratte-ciel. Lisbonne ne manque cependant pas de point de vue grâce à ses collines, mais l'expérience du pilier 7 du pont 25 avril sur le Tage permet d'offrir quelques sensations fortes. D'abord, c'est l'arrivée au Belvédère, situé à 80 mètres au-dessus de la rive nord du Tage. Une surprise de taille puisqu'au débouché de l'ascenseur qui y mène, on est à hauteur du tablier du pont et des véhicules qui y circulent. Des parapets empêchent que les conducteurs découvrent les visiteurs. À peine remis, un autre jet d'adrénaline nous submerge. Quelques 10 mètres carrés de la plateforme sont en verre, plongée vertigineuse dans le vide sous nos pieds avec en contrebas la circulation des voitures et même des trains de banlieue. Le reste de la plateforme est parfaitement normal et elle permet de profiter d'une superbe vue sur la partie occidentale de Lisbonne. Les maisons colorées aux tuiles rouges, la rive du Tage et ses promenades aménagées, les monuments du quartier historique de Belém et au loin l'embouchure du fleuve. L'ascenseur extérieur est aménagé le long du désormais fameux pilier 7. Des salles qui servent de sas d'attente permettent de mieux connaître le pont construit en 1969. Dans une atmosphère bleutée, comme si on flottait dans le Tage, la maquette originale de l'ouvrage, tandis que résonnent les coups des marteaux et les cris des ouvriers. Un premier mont de charge et la vision sur les câbles des hauts bancs du pont qui renferment 54 196 fils d'acier. En sortant, une dernière dose d'adrénaline si on le souhaite, une réalité virtuelle qui permet de grimper en haut des hauts bancs avec les ouvriers à 180 mètres au-dessus du Tage. L'expérience Pilier 7 est une attraction qui remplit son contrat ludique et pédagogique.
Music. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous avez été séduit cette semaine par l'accordéon et les arrangements avant-gardistes d'une formation venue d'Anvers.
Le groupe belge DAU fête cette année les 25 ans de sa formation à Anvers, en 1992 donc. DAAU, c'est pour Die Anarchistische Abend Unterhaltung, que l'on pourrait traduire par le divertissement anarchiste nocturne. C'est une référence au roman de Hermann Hesse, Le loup des steppes. Un nom pas comme les autres, pour un groupe pas comme les autres, qui mobilise des instruments comme l'accordéon, la clarinette, le violon, le violoncelle ou le piano autour d'une écriture qui s'épanouit aux frontières du jazz, de l'avant-garde rock, des musiques traditionnelles et du classique, un peu à l'image de ce qu'a pu faire Jan Tiersen en France. Et pour fêter son anniversaire, le groupe publie un album pour lequel il a sélectionné 20 morceaux dans sa discographie, réarrangés et réenregistrés pour l'occasion, des relectures qui impressionnent par leur sophistication et font à nouveau briller des pièces essentiellement instrumentales, à l'exception notamment de cette Rain Song.
On se quitte avec Rain Song des Belges DAU. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Il y avait bien sûr la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.